Gloire à Dieu. Nous prenons nos Bibles dans le livre des Actes des Apôtres. Actes des Apôtres, au chapitre 1. Actes des Apôtres, au chapitre 1, et le verset 8. Je lis ce qui suit. Mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit venant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Amen. Voilà, nous voulons ce matin voir quelques enseignements que nous tirons des chapitres des Actes, pas tous les chapitres, mais le chapitre 1, chapitre 2, chapitre 3, chapitre 4, chapitre 5, chapitre 6 et chapitre 12. Chaque chapitre nous donne un enseignement très important que nous voulons retenir. Au chapitre 1, le premier enseignement est le suivant. Il est dit au verset 8 qu'on vient de lire, « Vous recevrez et vous serez. » C'est dans la mesure où on reçoit qu'on peut être ce que Dieu veut que nous soyons. Si on n'a rien reçu, on ne peut pas être ce que Dieu veut que nous soyons. Il dit « Vous recevrez et vous serez. » Il est important qu'en tant que chrétien, nous devons savoir qu'on ne peut rien faire pour Dieu ni avec Dieu si on n'a pas eu quelque chose de la part de Dieu. Parce que l'œuvre de Dieu, ou ce que nous faisons pour Dieu, n'est pas par des efforts humains, par nos connaissances intellectuelles, mais c'est uniquement par le Saint-Esprit. Comme le dit Zacharie, ce n'est ni par la force, ni par la puissance, mais c'est par mon esprit. Et c'est pour cela que au verset 3, qu'on peut lire, il dit ceci, « Après qu'il eut souffert, il leur apparut vivant et leur en donna plusieurs preuves, se montrant à eux pendant 40 jours et parlant des choses qui concernent le royaume de Dieu. » Pendant 40 jours, Jésus a pris le temps de pouvoir enseigner ses disciples, s'investir en eux, leur donner tout ce qu'il faut pour qu'ayant reçu, ils puissent aussi apporter aux autres. Il est important que le chrétien doit se nourrir de la Bible, de ce que Dieu dit. Le chrétien doit être capable de pouvoir parler de Dieu sans tenir compte, plutôt sans s'appuyer sur d'autres personnes. Il y en a qui disent que, bon, en parlant, ils disent, bon, moi, je ne suis pas trop au fait des choses de la Bible. Non, il faut, lorsqu'on est chrétien, il faut avoir un bagage spirituel assez lourd pour pouvoir témoigner, pour pouvoir être témoin de Jésus. Donc, pour être témoin, il a dit, vous serez mes témoins parce que vous avez reçu quelque chose de ma part. Deuxième enseignement, on le trouve au chapitre 2, dans le chapitre 2 maintenant, au verset 14, qui dit ceci, alors Pierre se présenta avec les onze, éleva la voix et leur parla en ces termes, se présentant, dans l'expression se présentant. Lorsqu'on a reçu de Dieu, il faut sortir pour parler de Dieu. On ne reçoit pas pour garder d'une manière égoïste pour nous-mêmes, mais quand on reçoit de Dieu, il faut partager. Un chrétien doit témoigner de ce que Dieu a fait dans sa vie. Un chrétien doit faire connaître Christ à d'autres personnes qui ne le connaissent pas. Nous qui sommes devenus chrétiens, on a été un jour parce qu'une personne nous a parlé de Jésus. Donc quand tu as reçu un trésor, il faut partager ce trésor. Cela est important parce qu'il y a des personnes qui sont sans espoir et qui ont besoin d'entendre parler du Seigneur. Et qui d'autre peut le faire, si ce n'est pas ceux qui ont été choisis par le Seigneur, qui ont été sauvés par Dieu pour parler de lui. Troisième enseignement, chapitre 3, dans ces quelques extraits qu'on vous donne. Chapitre 3, verset 1 d'abord, nous dit ceci. Pierre et Jean montèrent ensemble au temple à l'heure de la prière, c'était la 9e heure. Verset 2, il y avait un boiteux de naissance qu'on portait et qu'on plaçait tous les jours à la porte du temple, appelé la Belle, pour qu'il demande l'aumône à ceux qui entraient dans le temple. Cet homme, voyant Pierre et Jean qui allaient y entrer, leur demanda l'aumône. Pierre, de même que Jean, fissa les yeux sur lui et dit, « Regarde-nous. » Il les regardait attentivement, s'attendant à recevoir d'eux quelque chose. L'expression « s'attendant à recevoir d'eux quelque chose ». Le troisième enseignement, c'est que nous devons, en tant que chrétiens, en tant qu'Église, répondre aux besoins des hommes qui ne connaissent pas le Seigneur, bien sûr, qui ont des besoins. Il a dit « s'attendant ». Le monde s'attend à nous. Inconsciemment ou consciemment, le monde s'attend que l'Église fasse quelque chose pour lui. La Bible dit ceci dans Matthieu 5, si je ne me trompe pas, Jésus dit ceci, « Nous sommes la lumière du monde. Quelqu'un qui est dans le noir, quelqu'un qui est d'un endroit qui est sombre, a besoin qu'il y ait la lumière pour voir comment marcher, où aller, où mettre les pieds et comment, en tout cas, trouver certaines choses. Donc le monde est dans les ténèbres. Le monde n'a pas de solution. C'est pour ça qu'il y a tant de personnes qui se suicident. Il y a tant de personnes, en tout cas, qui vont jusqu'à l'extrême. Pourquoi? Ils n'ont pas de solution. La science est très développée. Il y a tout. En tout cas, le monde semble être très développé sur le plan technique, sur le plan scientifique, sur le plan dans tous les domaines, mais sur le plan moral, l'homme a besoin d'un secours divin. L'homme s'attend que l'Église fasse quelque chose en sa faveur. Cet homme qui était boiteux de naissance, il n'a jamais marché. C'est pour dire qu'il y a des choses que le monde peut faire. Il y a certaines choses que le monde peut apporter comme solution. Mais il y a des situations où, si ce n'est pas la Bible, le Seigneur, il n'y a aucune solution. Et dont les gens, inconsciemment, je le dis, inconsciemment ou consciemment, s'attendent à ce que l'Église leur vienne en aide. Mais souvent l'Église ne le fait pas. Dans le sens qu'il y a quelqu'un qui a dit que on était des amis, mais tu ne m'as jamais parlé de Jésus. Tu ne m'as jamais dit que Jésus peut apporter le bonheur, la paix. Tu m'as laissé dans ma misère. Vous voyez, ce que nous pouvons partager, ce que nous pouvons apporter aux gens, c'est ce que nous avons comme la parole de Dieu. Est-ce que si vous avez, c'est pas, lorsqu'on va se marier, par exemple, on en parle à nos amis, on en parle à nos parents, on partage notre bonheur. Et tu as le Seigneur dans ta vie et tu le caches, tu ne dis rien à personne, tu ne partages pas. On n'a pas à imposer Jésus aux gens, mais ce que nous avons à faire, c'est d'en parler. Et à chacun d'en faire ce qu'il veut, mais au moins partager cela. En tout cas, il y a des gens qui vont avoir des problèmes au ciel. C'est une manière de parler, parce que ceux qui vont en faire diront, mais tu avais un tel trésor et tu m'as rien dit. Et me voici aujourd'hui en enfer. Chers amis, chers frères et sœurs, partageons. Pierre et Jean ont dit, On n'a pas d'argent, on n'a pas d'or, mais ce que nous avons, vous voyez, ce que le chrétien a, la personne de Christ est plus que tous les trésors d'ici-bas. Vous voyez, Et si nous en parlons à des personnes, en tout cas, ça peut les aider à sortir des situations difficiles. Ouais. J'ai été sauvé il y a 45 ans de cela parce que quelqu'un m'a vu dans ma misère et m'a partagé le trésor qu'il avait. Et on voit dans le passage, qu'on vient de voir, Pierre et Jean dit, nous n'avons ni or ni argent, mais ce que nous avons, nous te le donnons. Et puis là, on dit, le prenant par la main, c'est-à-dire un geste de solidarité, pour dire, tu n'es pas seul. Donne-nous la main. Tu ne peux pas marcher, mais donne la main. Et mène la main, le miracle s'est produit. Il faut que nous donnons la main d'association à des personnes qui ne connaissent pas le Seigneur. Il n'y a que Jésus seul qui peut répondre à leurs besoins. Mais si nous nous enfermons dans notre foi, dans nos christianismes qui ne se fait qu'en vase clos, sans penser au monde qui est perdu, au monde qui est égaré, au monde qui est sous la puissance de Satan, les gens iront en enfer et rien ne pourra les sauver. Tendons la main vers ceux qui sont perdus, qui sont égarés, tendons-leur la main et Dieu fera le reste, le miracle se produira. Quatrième enseignement, verset 1 du chapitre 4. Tandis que Pierre et Jean parlaient au peuple, suivaient les sacrificateurs, le commandant du temple et les sadducéens, mécontents de ce qu'ils enseignaient le peuple et annonçaient en la personne de Jésus la résurrection des morts. Il a dit, il mit la main sur eux et les jetèrent en prison. Nous devons nous attendre à cause du message que nous apportons, nous attendre à des persécutions. C'est vrai qu'en Suisse, tout va bien, on n'est pas persécuté, mais dans d'autres pays, annoncer l'évangile est égal que tu as signé ton arrêt de mort. Donc, quand nous parlons de Jésus, il faut s'attendre qu'il y ait des oppositions, des gens qui sont contre, qui sont opposés farouchement. Il ne faut pas être étonné, surpris. Le message que nous apportons est un message qui divise. Un message qui doit amener les gens à prendre position, soit pour Christ ou soit pour Satan. Il n'y a pas dans ce domaine la neutralité. Où on est pour Jésus, où on est pour Satan. Et ceux qui sont pour Satan vont réagir violemment, pas tous bien sûr, mais certains, contre ce message. Pierre et Jean font un miracle. Ils n'ont rien fait de mal. Ils annoncent Christ qui guérit les malades, qui sauve. Et à cause de cela, ils sont mis en prison. Donc, attends-toi. Quelqu'un qui n'annonce pas l'évangile ne va pas avoir de problème. Hein? Mais quand tu commences à annoncer, ta famille va te rejeter, tes amis vont te rejeter, tu vas rester tout seul. Hein? L'évangile, comme dit le Seigneur, il n'est pas venu pour apporter la paix, mais l'épée. C'est-à-dire l'évangile crée des situations conflictuelles avec les autres qui ne veulent pas accepter. Attendons-nous, en annonçant l'évangile, de voir des persécutions. Cinquième enseignement, au chapitre 5, verset 1, dit ceci, « Mais un homme nommé Ananias et Saphira, sa femme, vendit une propriété et retint partie du prix sa femme de Sachant. Puis il apporta le reste et le déposa aux pieds des apôtres. Pierre lui dit, « Ananias, pourquoi Satan a-t-il rempli ton cœur au point que tu mentes au Saint-Esprit et que tu aies retenu une partie du prix du champ ?» L'enseignement que nous donne le passage, vous pouvez voir la suite. L'Église doit vivre dans la sanctification si elle veut connaître une progression ou bien qu'elle veut connaître une augmentation de ses membres. Nous avons non seulement annoncé l'Évangile, mais on doit vivre l'Évangile. C'est-à-dire que Il y a beaucoup d'églises, il y a beaucoup de chrétiens, mais il doit y avoir une différence dans le comportement que nous avons par rapport à ce que nous disons ou nous annonçons. On doit être différent des autres, non pas parce qu'on veut être différent, mais quand on croit en Jésus, qu'on croit en sa parole, la Bible crée en nous une transformation de cœur. On ne parle pas comme les autres. On n'agit pas comme les autres. On ne fait pas comme les autres. Notre vie est conforme à ce que Dieu enseigne dans sa parole. Il y a quelqu'un qui a dit à un autre qui n'est pas chrétien, qui lui témoignait de l'évangile de Jésus, il lui dit, mais ce que tu es, parle plus fort que ce que tu dis. Ça veut dire quoi? Ça dit, tu parles de Jésus, mais ton comportement est contraire à ce que tu enseignes. Voyez? Nous devions, comme le dit l'apôtre Paul quelque part, nous devions être comme une lettre ouverte et que tout le monde peut voir et lire. On n'est pas des gens qui sont parfaits, mais par rapport à ceux à qui nous parlons de Jésus, il faut qu'ils voient en nous que ce que nous disons n'est pas contraire à ce que nous sommes. Nous qui prêchons l'Évangile, on ne doit pas être différent du message que nous annonçons. Le message et le messager, c'est la même personne. Il n'y a pas le message à part et le messager à part, mais le message et le messager ne font qu'un. Cela est très important. Ce qui peut toucher le cœur des gens, ce qui peut amener les gens à croire en Jésus, c'est quand ils voient que tu n'es pas comme eux, tu ne fais pas comme eux. Tu as un comportement qui inspire l'admiration. Tu fais des choses que le commun des mortels n'est pas capable de faire. On vous donne un exemple. Dans Matthieu 5, Jésus dit ceci, que si vous aimez seulement ce que vous aimez, mais que faites-vous d'extraordinaire? Le chrétien doit être une personne extraordinaire qui fait des choses qui dépassent l'entendement, qui peut aimer, comme le dit dans Matthieu 5, qui peut aimer ses ennemis. En Amazonie, il y avait un missionnaire qui a été tué par des cannibales. Des années plus tard, son fils devient missionnaire. Et il va dans cette tribu, non pas pour se venger, mais pour leur parler de Jésus. Et l'assassin de son père devient chrétien. Ils ont pu prendre ensemble une photo. Vous voyez comment Dieu est puissant. Nous sommes là pour témoigner de l'amour de Dieu pour le monde. C'est-à-dire, nous devons faire des choses que personne d'autre ne fera. Mais par la force de Christ en nous, nous devions montrer que nous parlons de Jésus, mais nous vivons Jésus. Il faut que le monde voie des personnes qui parlent de Jésus, mais surtout qui vivent la vie de Jésus. Il y a des moments, on peut dire à certaines personnes, parle moins de Jésus, mais vis Jésus. Et dans mon pays, il y avait une jeune fille qui aimait témoin de Jésus dans le bus, dans les transports en commun. Et puis, cette jeune fille, un jour, pendant qu'elle parlait de Jésus, il y a les contrôleurs qui sont montés dans le bus et en comptant les tickets, elle n'avait pas payé son ticket. Et puis, tout le monde se moquait d'elle. « Hey, Jésus, 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 Jésus fraude le bus. » Vous voyez, quel témoignage. Vous voyez. Que Dieu nous aide à être des hommes et des femmes qui vivent la vie de Jésus en rapport avec l'enseignement de sa parole. Nous terminons par deux chapitres. Bon, pour revenir, pour dire que Ananias et Saphira ne vivaient pas comme les autres. Hein. Ils sont chrétiens, apparemment, mais leur vie n'était pas conforme à la parole de Dieu. Jésus a dit ceci, « Que sait-il un homme de croire en moi ?» Bon, je cite le passage dans Jean, je ne me rappelle pas du chapitre, il a dit, « Heureux, vous êtes heureux si vous mettez en pratique ce que je vous dis. » Bon, nous terminons par deux autres enseignements. Au chapitre 6, au verset 1, il a dit ceci. Excusez-moi, chapitre 6, verset 1. En ce temps-là, le nombre des disciples augmentant, les hénénistes murmuraient contre les Hébreux, parce que leurs veuves étaient négligées dans la disposition qui se faisait chaque jour. Dans la pensée que nous retenons, il se dit, un groupe dans l'Église murmurait contre un autre groupe. Il faut s'attendre. L'Église, elle est humaine et divine. En nous, dans notre vie, il y a ce qu'on appelle une dualité. C'est-à-dire, nous, il y a l'humain, l'homme que nous sommes, il y a le divin, Christ qui habite en nous. Alors, comme nous sommes sur la terre, on est des humains, il faut s'attendre qu'il y ait des problèmes. Il faut s'attendre, il ne faut pas le souhaiter, mais souvent, il peut y avoir des problèmes, il peut y avoir des conflits ou des situations difficiles entre les membres de l'Église. Ici, pour une question de repas, deux groupes ne s'entendaient pas. Donc, ça crée un conflit. Il y avait des murmures. Les murmures, apparemment, ce n'est pas très grave, mais quand il y a un problème dans l'Église, même mineur, il ne faut pas négliger cela. Comme le dit Cantique des Cantiques, les petits renards qui ravagent les vignes, même quand c'est petit, c'est dangereux. En Afrique, un moustique, même tout seul, il peut te transmettre le paludisme. Donc, il ne faut pas dire que c'est une bestiole, de rien du tout, mais en tant qu'il est dangereux. Donc, nous sommes dans l'Église aussi, il peut y avoir des problèmes. Ne sommes pas donc étonnés s'il y a des problèmes au sein de l'Assemblée. Mais là où il y a, qui est plus grave, c'est quand le problème n'est pas réglé. Dans le passage de l'enseignement que nous retenons, c'est qu'il y avait un problème. Les apôtres n'ont pas négligé le problème. Parce qu'un problème qui est négligé, ça prend de l'ampleur. Ça commence tout doucement et ça finit par... Voilà. Souvent, nous voyons, plutôt, j'observais, souvent chez moi à la maison en Afrique, je voyais le matin des fourmis qui transportent un gros cancrelat. Je ne sais pas si vous connaissez. Mais je me demande comment des moustiques peuvent transporter ce cancrelat là. Qu'est-ce qu'on fait? Pendant toute la nuit, ils ont vidé tout son intérieur. Comme tout l'intérieur est vidé, donc maintenant il est facile à transporter. C'est pour dire quoi? Que si nous négligeons les problèmes dans l'Église, ça prend de l'ampleur et après cela, c'est difficile à régler. Qu'est-ce que les apôtres vont faire? Ils vont donc convoquer toute la multitude des croyants dans l'Église en question. Ils vont leur exposer la situation. Il y a un processus de règlement du problème. Premièrement, il faut identifier la nature du problème. Deuxièmement, il faut en parler à tous ceux qui sont concernés. Troisièmement, on n'impose pas la solution. On n'impose pas notre solution à nous, mais on prend la vie des uns des autres pour leur demander qu'est-ce qu'ils vont faire, qu'est-ce qu'ils en pensent, ce qu'ils ont fait. Et quatrièmement, dans des situations conflictuelles ou dans les problèmes de l'Église, il faut trouver des personnes, mais pas n'importe qui, des personnes de qualité. Quand on dit de qualité, ce n'est pas qu'ils sont meilleurs que les autres, mais ici, il est dit qui sont remplis d'esprit et de sagesse. C'est-à-dire, quelqu'un qui n'est pas sage, il va créer plus encore de problèmes. Quelqu'un dit ceci, il faut être nous. Il faut être une solution et non pas un problème. C'est-à-dire, tu dois être une solution, non pas un problème. Il y a des gens qui mettent de l'huile sur le feu. Il y avait dans un bus une personne, une dame qui était en train de, en tout cas, qui était en conflit, qui élevait la voix très fort, et une autre personne qui n'était même pas près de ces deux personnes, qui était très loin, mais dans le bus, mais très loin, qui ne sait rien de ce qui se passe, et puis qui commence à prendre position pour l'homme, contre la femme. Ouais, c'est pas une personne qui est sage. Quelqu'un qui veut régler un problème doit se mettre au-dessus de la mêlée. Donc, une personne qui est sage. Sinon, ce n'est pas sage, elle crée plus de problèmes que de solutions. Alors, dans 2 Corinthiens 6, Paul dit ceci aux Corinthiens, n'y a-t-il pas parmi vous des personnes, une personne qui soit sage pour que vous puissiez porter vos problèmes internes à l'Église devant les tribunaux? N'y a-t-il pas une personne qui soit sage? C'est pour dire que dans l'Église, on peut trouver des personnes qui ne sont pas forcément des pasteurs, même des simples chrétiens dans l'Église, mais qui sont pleins de sagesse et qui peuvent apporter par leur sagesse la solution au problème. Le choix a été fait de cette personne, dont Étienne, qui ont pu donc régler le problème. Que Dieu nous aide dans n'importe, que ce soit des problèmes, ce n'est pas en deux personnes, qu'il y ait quelqu'un qui soit sage pour être comme un réconciliateur. Je termine au chapitre 12. J'ai sauté des chapitres. Sinon, c'est tout le livre. Dans chaque chapitre, un enseignement jusqu'au chapitre 28. Au chapitre 12, verset 5, quelqu'un peut lire ce passage? 12, 5. Acte 12, verset 5. Donc, voilà. Donc, l'enseignement de ce passage, de ce chapitre, il y a plein d'autres enseignements. Il a dit que Pierre était en prison. Pas n'importe quelle prison, ce n'est pas une prison comme ici, où les prisonniers ont la télévision, l'Internet. Je ne sais pas s'il y a l'Internet. Mais là, c'était une prison où il avait les fers aux pieds et les mains liées aussi par des fers. Et il était tenu par deux gardes qui le tenaient de chaque côté. Donc, et puis, avant lui, Jacques a été mis en prison, aussi dans la même prison, il a été décapité. Et par qui? Par Hérode, un roi très cruel. Donc, il n'avait pas d'espoir de s'en sortir. Mais la leçon que nous retenons ici, malgré que les circonstances étaient défavorables, qu'il n'y avait pas de l'espoir pour s'en sortir, c'est ce que l'Église a organisé une veille de prière pour que Dieu intervienne en faveur de Pierre. Donc, quel enseignement? L'enseignement, c'est que, quel que soit ce que nous vivons, nous devons croire en la puissance de la prière. La prière est une puissance qui ne tient pas compte des circonstances, mais qui voit qu'avec Dieu, l'impossible devient possible. Qui croit qu'au-delà de ce que je peux vivre, la prière peut briser toutes les chaînes. De croire que même s'il n'y a aucun espoir, s'il n'y a aucun moyen de s'en sortir, même si la situation est désespérée, Dieu est au-dessus de tout cela. Il faut croire que ce soit un problème qui soit individuel ou bien collectif, il ne faut pas baisser les bras. La prière n'est pas un bavardage inutile, mais c'est une puissance qui fait mouvoir la main de Dieu. Une puissance qui fait descendre Dieu dans ton problème et qui le pousse à intervenir. Pierre était en prison, les chrétiens ont cru, malgré qu'une première fois il y a eu un échec, parce que vos pas ne rate pas l'échec d'hier, mais il faut croire que c'est vrai, hier ça n'a pas marché, mais aujourd'hui ça peut marcher. Vous voyez, faut pas faire des prières en tenant compte du passé, en tenant compte de ce que hier tu as prié, ça n'a pas marché, donc tu penses que non. Dieu fait chaque jour une chose nouvelle. J'ai dit, quelle que soit ta situation, ça peut être une situation de santé, une situation familiale ou autre, financière ou autre, ou spirituelle, ce que Dieu te demande, il a dit, Pierre était en prison, l'Église ne cessait pas de prier, ne cessait. C'est-à-dire, le problème aujourd'hui, on peut prier et puis arrêter. Mais il dit, ils n'ont pas arrêté de prier. Tant qu'ils n'ont pas vu ce qui va se passer, ils ont continué à siéger le trône de Dieu, à siéger le trône de Dieu, à crier à lui, comme des personnes qui se noient et qui cherchent à être sauvées, quelle que soit ta situation, jusqu'à la dernière seconde, il faut croire qu'un miracle peut se produire. Même si tout semble perdu, même si aucun moyen d'en sortir, comme le cas de Pierre, il était en prison, des gardes étaient auprès de lui, eux dans le couloir de la prison, la porte était en fer, et donc il n'y avait pas de moyen d'en s'en sortir, mais voici qu'un ange va descendre la prison et les chaînes vont être brisées. Que ce matin tu crois que la prière que tu dis à Dieu a une puissance qui a des effets, en tout cas, bénéfiques pour toi. Donc, quelle que soit la situation que tu vis, même si on te dit que tu ne peux pas t'en sortir, mais il faut dire, je n'ai pas entendu encore Dieu me dire quelque chose. Et tant que Dieu n'a pas encore parlé, il faut croire et continuer de prier. En conclusion de cet enseignement, chapitre 12, dans Marc 5, il y a une personne qui avait sa fille dans le coma, vient voir Jésus pour dire d'intervenir en faveur de la fille. Le Seigneur, en partant, est retardé par une autre qui avait des problèmes. Et avant d'arriver à la maison, des gens viennent dire à la personne, « Ce n'est pas la peine d'importuner Jésus parce que ta fille, elle est morte. » Or, quand on confie un dossier au Seigneur, il va le traiter jusqu'au bout. Ce n'est pas quelqu'un qui traite un dossier à moitié. Donc, je peux comme paraphraser, il a dit à l'homme, « Tu m'as confié ton dossier. Je suis en train de régler le problème. » Il ne faut pas écouter ce que disent les gens. Mais il a dit ceci, sans tenir compte de ses paroles, il dit à l'homme, ne crains pas, mais crois seulement. Sans tenir compte de ses paroles. Lorsqu'on prie pour un problème, on ne tient pas compte de ce que nous ressentons, de ce que nous voyons, mais on tient compte de la personne de Dieu, de sa parole. Et quand, c'est pour cela que souvent, quand on prie, on ferme les yeux. Pour ne pas, parce que quand tu ouvres les yeux, tu vois la situation, tu es découragé. Donc, tu fermes les yeux pour ne pas regarder la situation, mais tes pensées sont tournées vers le Seigneur. Que Dieu vous bénisse et que par ces quelques enseignements, tu sois encouragé. Tu sois encouragé pour dire que si tu reçois de la part du Seigneur, tu peux être ce qu'il veut que tu sois. Que Dieu bénisse et que sa parole demeure en chacun de nous. Amen. Est-ce qu'on peut tous ensemble, chacun, d'après ce qu'il a reçu, de ce qui a été dit ce matin, élever sa voix vers le Seigneur. Donc chacun s'est dédié quelque chose à Dieu par rapport à ce qu'il a entendu, par rapport à ce qu'il a reçu de cette parole.